Accent d'Europe, Catherine Roland.
Als je van bieren leren kan, van slimme bieren leren kan, is dat iets wat je echt proberen moet.
Bonjour et bienvenue sur Accent, ou plutôt Jack, comme on devrait le dire, aux Pays-Bas, même s'ils sont de plus en plus nombreux à vous dire hi pour vous saluer. Et c'est bien le drame, selon le journal Volkskrant, qui vient de publier une enquête. L'anglais est de plus en plus pratiqué au détriment du néerlandais. C'est déjà le cas chez la jeune génération, et l'enseignement supérieur a également sauté le pas. Plus de 60% des cours dans les universités du Royaume se déroulent désormais dans la langue de Shakespeare. Est-ce à dire que le néerlandais va disparaître ? Des écrivains, intellectuels, encore des professeurs le craignent. Ils ont publié un manifeste pour défendre la langue nationale, d'autant que les cours donnés en anglais sont souvent de moins bonne qualité. Et c'est le reportage dans tout le monde.
Les premiers étudiants de l'année viennent de s'installer. Pete Gerbrandy est fin prêt pour sa rentrée universitaire. Ce professeur de latin de l'université d'Amsterdam donne son cours devant une petite quinzaine d'étudiants. Un cours qui fait partie des quelques 40% des cursus universitaires des Pays-Bas, encore professés en néerlandais. Et Piet Gerbrandy entend bien que ça le reste.
Si vous allez étudier à Paris, vous devez parler français. Si vous allez en Allemagne, vous parlez allemand. Pareil à Rome pour l'italien. Mais si vous êtes étranger et que vous venez étudier ici à Amsterdam, vous n'avez même pas besoin d'apprendre le néerlandais. Tout est en anglais. Je ne trouve pas ça normal.
Piet Gerbrandy est connu pour son combat contre l'anglicisation de l'enseignement universitaire aux Pays-Bas. Avec des collègues, il a même rédigé un manifeste pour la sauvegarde du néerlandais. Car il en est convaincu, si ça continue, plus personne ne parlera correctement néerlandais. Avec des conséquences désastreuses pour le pays.
La plupart des étudiants travailleront plus tard ici aux Pays-Bas. Certains seront fonctionnaires, juges ou même parlementaires. Et dans ces fonctions, il faut pouvoir s'exprimer parfaitement en néerlandais. Sinon, on se retrouve avec des gens qui ne savent plus écrire une lettre ou dire ce qu'ils veulent.
Trois étages plus bas, dans la somptueuse cour de la faculté de sciences humaines de l'université d'Amsterdam, une centaine d'étudiants en droit attendent impatiemment leur premier cours de l'année. Si on tend bien l'oreille, on se rend compte qu'ici, la bonne moitié des conversations entre étudiants ne se font pas en néerlandais, mais en anglais. Luca, 23 ans, est italien. Il est venu étudier son droit à Amsterdam pour les 6 prochains mois. Il se réjouit déjà à l'idée de suivre tous ses cours en anglais.
Toutes les universités dans le monde devraient faire comme les universités néerlandaises, car l'anglais est vraiment une langue importante aujourd'hui.
Ce n'est pas vraiment l'avis de l'organisation étudiante ISO. Son président, Jan Sinireux, étudiant en management public, n'est pas contre l'anglicisation en soi. Mais pour lui, le problème, c'est que la plupart des professeurs ne parlent pas assez bien anglais pour enseigner complètement dans cette langue.
Il y a vraiment très peu de professeurs qui parlent très bien anglais. Certains parlent même vraiment mal. Ils utilisent parfois des mots étranges qui ne veulent rien dire. Des étudiants viennent souvent s'en plaindre et on trouve ça très grave.
Mais selon lui, il y a pire encore. Jan Sinireux reproche aux universités néerlandaises de préférer l'argent d'étudiants étrangers à la qualité de l'enseignement.
Ce n'est quand même pas normal que l'anglicisation soit guidée par l'attrait des dollars et des yens. Les étudiants chinois, par exemple, apportent beaucoup plus d'argent aux universités néerlandaises que les néerlandais eux-mêmes, d'où la préférence des universités pour l'anglais.
Et l'argument des étudiants a été entendu. Même si la ministre de l'enseignement est toujours en faveur de l'anglicisation des universités, elle a dit refuser que les cours se déroulent dans un mauvais anglais juste par facilité pour attirer des étudiants étrangers. Mais faut-il encore que les universités l'écoutent ? Karel Dietrich est président de l'organisation des universités néerlandaises VSNU. Il ne voit pas où est le problème.
Je n'ai pas vraiment peur que la qualité de l'enseignement se détériore. Même s'ils ne parlent pas le meilleur anglais qu'ils soient, je suis convaincu que les professeurs et les étudiants sont capables de comprendre l'essentiel des cours.
René Appel est écrivain et linguiste, mais surtout un fervent défenseur de la langue néerlandaise. Pour lui, ce n'est pas seulement les universités, mais tout le système éducatif néerlandais qui est concerné. Aujourd'hui, il a très peur pour l'avenir de sa langue maternelle.
als je die verengelsing van het onderwijs koppelt.
Si vous ajoutez à l'anglicisation du système éducatif la très forte influence de l'anglais sur la culture néerlandaise, l'énorme augmentation de mots issus de l'anglais, même si on a déjà de très bons mots dans notre langue pour ça, alors vous vous rendez compte à quel point le néerlandais est en mauvaise posture.
Dat het Nederlands een beetje in een moeilijke positie komt.
Mais les voix comme celle de René Appel se font encore très rares. Aux Pays-Bas, la maîtrise parfaite de l'anglais est souvent perçue comme la clé de la réussite et une ouverture sur le monde nécessaire pour ce petit pays de près de 17 millions d'habitants.
L'Albanie serait-elle devenue l'Eldorado européen du cannabis ? En juin 2014, il y a deux ans, donc, la police albanaise a déployé 800 policiers à Lazarat, un modeste village du sud du pays. 13 tonnes de cannabis ont été saisies, plus de 80 000 plants détruits. Une opération antidrogue très médiatique. Il n'empêche, la marijuana continue de circuler, Simon Rico.
Depuis quelques années, les amateurs de cannabis du monde entier se font discrètement passer le mot. Le chanvre qui pousse dans les montagnes du sud de l'Albanie, près de la frontière avec la Grèce, est bon marché et de fort bonne qualité. Voilà comment le petit pays des Balkans est devenu un producteur incontournable, au point que le village de Lazarat a même fini par gagner l'officieux surnom de capitale européenne du cannabis. Dans ces hautes terres pauvres et peu peuplées, la drogue est désormais une véritable manne. 2 kilos de cannabis rapportent plus qu'une tonne de blé. De quoi attirer les modestes paysans du coin qui sont de plus en plus nombreux à s'arranger avec la légalité dans l'espoir de gagner un peu mieux leur vie. Les autorités albanaises, qui ont longtemps fermé les yeux sur ce trafic, se sont lancées voilà 2 ans dans une vaste croisade anti-cannabis, conjointement avec les carabiniers italiens. En septembre 2015, la police albanaise annonçait avoir détruit plus de 650 000 plants en 8 mois et arrêté près de 300 contrevenants. Selon un rapport italien, le village de Lazarat produisait alors environ 900 tonnes de cannabis par an pour une valeur marchande à la revente estimée à 4,5 milliards de dollars, soit plus du tiers du PIB albanais. Cette année, la police de Tirana n'a pas encore publié de données, mais on annonce déjà des saisies encore plus grandes qu'en 2015. L'Albanie reste numéro 1 en Europe en termes de production de cannabis, a d'ailleurs rappelé Dimitris Avramopoulos, le commissaire européen à la migration et aux affaires intérieures, après la publication du rapport 2016 de Bruxelles sur la production et le trafic de stupéfiants.
Si c'est un choix personnel de conviction religieuse que la fille, elle a vraiment envie de se voiler.
C'est jamais un choix complètement
et
personnel.
C'est ça le problème,
la fille,
on peut pas le savoir.
Elle a été éduquée dans une famille. Donc même si elle dit c'est moi qui décide, non, tu décides jamais puisque tu as été élevée dans un certain...
Oui, mais toi, ta façon de vivre, c'est aussi ta famille qui l'hérite et t'aurais pas envie qu'une personne vienne te dire ouais, ben change ta façon de vivre.
Je suis d'accord.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors on l'a entendu, un des extraits de la grande enquête des générations Watt. Alors on l'avait déjà évoqué avec vous cette enquête, la grande sœur de génération quoi qui s'intéresse à la vie des jeunes Européens. On en reparle donc avec vous car les premiers résultats commencent à tomber. Vous avez choisi vous de décrypter aujourd'hui les réponses des jeunes Européens sur la question, on l'a deviné, du port du voile.
Exactement. Il y a quelques jours, le site officiel du Grand Questionnaire mettait en ligne les premiers résultats de l'enquête, vous l'avez dit, concernant la tolérance des jeunes Européens et notamment leur attitude vis-à-vis du port du voile par les femmes. Petite précision de vocabulaire, le voile désigne ici le hijab, c'est-à-dire le vêtement traditionnel qui peut cacher les cheveux et le cou des femmes, et non le voile intégral qui est déjà interdit dans plusieurs pays en Europe. Au total, plus de 890 000 réponses ont été recueillies en ligne. Et voici le résultat.
Et alors, Eve, on peut en savoir plus ?
À la question « Les filles voilées dans la rue ou au travail, cela te choque ou cela ne te choque pas ?» 55% des jeunes Français entre 18 et 34 ans répondent par la négative. Ce qui est intéressant, c'est que l'on constate une très large différence de réponse en fonction des âges des sondés. En gros, plus les Français sont jeunes, moins ils sont choqués, les moins choqués étant les 18-19 ans. Et cela se confirme lorsque l'on regarde les résultats du sondage Génération Quoi mené exclusivement en France il y a quelques années, c'était en 2013. À l'époque, 60% des 18-34 ans se disaient cette fois-ci choqués. En 3 ans, la majorité a donc changé de camp. Le reste de la population française, âgée donc de plus de 34 ans, est contre le port du voile à hauteur de 68%, selon une source citée par France Télévisions. Et bien pourquoi les jeunes sont si tolérants? La sociologue Anne Muxel, chercheuse au CNRS, est chargée de décrypter les résultats, avance un début de réponse. Elle explique que cette génération est peut-être plus tolérante et désire davantage laisser à chacun la liberté de mener sa vie comme il l'entend, notamment sur les questions fortement identitaires, comme la religion ou la sexualité, par exemple.
Et ailleurs, en Europe, est-ce qu'on a le même phénomène qu'en France?
Alors, je vous propose d'abord d'écouter un petit extrait des réponses des jeunes Européens.
Personne ne peut me dire qu'elles couvrent leur visage par choix. Une jeune femme ne porterait pas ça par choix. Je n'y crois pas. Elles doivent être forcées par la famille. Je ne le vois pas autrement.
Si c'est ce en quoi elles croient, qui suis-je pour leur dire que ce n'est pas bien? Parce que moi, je sais en quoi je crois.
Voilà, alors pour la chronique, on a choisi de sélectionner deux opinions tranchées, hein, très différentes, une en Autriche et l'autre en Irlande. Mais globalement, les jeunes Européens sont moins choqués que les jeunes Français. C'est ce que les chiffres nous révèlent. Les jeunes Hollandais, par exemple, ne se déclarent pas choqués à 84% devant les Italiens, les Irlandais et les Tchèques, ainsi que les Belges, 71%. Alors que, par exemple, la Suisse et l'Allemagne ont des résultats assez proches de ceux de la France, hein, autour de 60% de jeunes pas choqué, hein, j'insiste bien.
Alors ces résultats sont publiés alors que la question du voile est plus que jamais au cœur de l'actualité, notamment en France et en Belgique, touchée par les attentats.
Oui, quelques années après le débat autour du voile à l'école, hein, qui avait abouti à de nombreuses interdictions, totales ou partielles, en fonction des pays d'Europe, c'est aujourd'hui la question du port du voile dans la sphère professionnelle qui est au centre de tous les débats. Peut-on interdire le port du voile en entreprise? En Belgique, un litige entre une jeune ingénieure et son employeur est même remonté cette année jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne. La jeune femme s'était faite licencier parce qu'elle désirait porter le voile dans sa vie de tous les jours, sur son lieu de travail. La Cour de cassation belge va devoir bientôt trancher et en attendant, elle a préféré demander son avis à la haute juridiction européenne. Une décision que l'on attend toujours et qui aura probablement d'ailleurs un grand retentissement en Europe. Mais les conclusions de l'avocate générale rendues en juin dernier penchent déjà pour une autorisation de l'interdiction. Et cette fois-ci, Catherine n'a pas vraiment demandé leur avis aux jeunes Européens.
Merci Eve Minot.
À la semaine prochaine.
Et oui, à la semaine prochaine. Les Norvégiens ont encore plusieurs années d'exploitation pétrolière devant eux, mais ils sont prévoyants. Les revenus de l'or noir sont en train de baisser très vite. Alors les entreprises du secteur essayent de trouver d'autres solutions. L'une d'entre elles vient de démarrer des croisières vers des plateformes pétrolières. C'est ce que nous dit Pauline Curtet.
À bord du bateau, 120 touristes, pour la plupart norvégiens, qui ont déboursé environ 2000 euros chacun, tout de même, pour faire partie de l'aventure. Pendant 4 jours, leur navire de croisière high-tech, normalement utilisé par l'industrie pétrolière pour transporter ses employés, a sillonné la mer du Nord, faisant étape devant plusieurs plateformes pétrolières. Clou du spectacle, la plateforme géante Troll A, propriété du Norvégien Statoil, 200 mètres de haut au moins, est la plus grosse structure à jamais avoir été déplacée par l'homme. Règles de sécurité oblige, les touristes n'ont pas pu monter sur les plateformes, mais ont eu droit à des démonstrations de sauvetage en hélicoptère et à un salut un peu particulier des employés présents. À l'arrivée du navire, ils ont ouvert leur canon à eau. Bref, à leur retour en terre ferme, les touristes ont assuré à la presse que la croisière valait le détour. Pour la compagnie Eda Accommodation qui a organisé le voyage, c'est aussi pari gagné, alors qu'il ne s'agit pas vraiment de son domaine de compétence. Normalement, elle organise le logement offshore d'employés de l'industrie pétrolière. Mais depuis la baisse des prix du pétrole, la société cherche à se diversifier. C'est maintenant chose faite. Après ce premier succès, une nouvelle croisière a été organisée début août. D'autres devraient être proposées prochainement. Eda Accommodation le promet.
Bon courage, 3-4, allons-y, touchez les pieds, les jambes tendues, pliez les genoux toujours plus bas, en équilibre sur les rondins, dinoulinez avec les bras, assouplissement chasseur alpin, recommencez 5 ou 6 fois, décompressez et on remet ça.
Quoi qu'en dise et chante Tom Novembre, ce n'est pas la gymnastique que les Français préfèrent, mais plutôt le vélo et la marche à pied. Ce sont les deux sports que les Français disent pratiquer le plus au grand air, mais ils sont de plus en plus nombreux à se convertir en sport en salle, loin derrière les Britanniques tout de même, avec 9,5 millions d'adeptes contre 5 millions seulement dans l'Hexagone. Les salles de fitness se multiplient malgré tout, 3800 salles, ce qui est encore peu face aux 8300 salles en Allemagne ou 7300 en Italie. Et c'est dans le centre de Paris, dans la salle Neoness, un club low cost, qu'Assel Kipchakova a rencontré ses nouveaux adeptes.
Encore 4, 3, 2, 1, on relâche, on passe de l'autre côté. Replacez-vous.
Pour rester en forme, c'est le cours de Body Combat que Yann a choisi aujourd'hui.
C'est relativement cardio, on fait bouger vraiment tous les muscles du haut et du bas du corps, donc c'est vraiment un sport très complet, je trouve.
Neoness, ce nouveau club de 1500 mètres carrés, ouvert il y a un an, a investi les lieux d'un ancien parking en plein cœur de Paris. Dans ces salles climatisées, sans miroir ni fenêtre, tout est à la carte. Les cours collectifs, les serviettes et même l'accès à la douche. Les prix sont imbattables des 10 euros par mois et sans engagement. En revanche, à ce tarif-là, pas de piscine ni de sauna à disposition, ce qui ne semble pas déranger Catherine.
À partir du moment où il y a suffisamment de machines, si elles sont entretenues, les vestiaires sont propres, ça va. Je ne demande pas plus. Avant, j'étais dans une autre chaîne qui était plus chère et au final, il n'y avait pas trop d'avantages à payer plus cher pour ce que je veux en faire, quoi. Je ne prends pas de douche, je vais me doucher chez moi. Donc, effectivement, après, c'est un service qui peut être payant. Dans mon ancienne salle, il y avait un sauna, les douches étaient donc gratuite, le sauna aussi, mais l'abonnement coûtait plus cher, donc à la limite, il faut savoir ce qu'on veut, quoi.
Victime de son succès, le club affiche souvent complet, entre midi et deux, ainsi que le soir. Pour Karine, l'affluence trop importante est le point faible.
Dans leur concept, c'est vrai que quand les salles comme celle-ci sont des petites salles, on est obligé de réserver les cours et c'est vrai que c'est un peu contraignant. Et la capacité d'accueil, quand même si on réserve, on peut se retrouver à très nombreux dans la salle. Donc ça, c'est un peu le truc que je reprocherais, mais c'est pas dans toutes les salles néonaises.
À ce prix-là, cette salle de sport low cost propose tout de même un coach. Adam est l'un d'eux.
On le laisse pas dans le champ de bataille, comme on dit, en lui donnant des indications et à se débrouiller. Non, la personne, on essaie comme de le suivre régulièrement. Tout ce qui est, si je vous donne des exemples un peu cheap, par exemple le body attack ou du step, ce genre de concept où je trouve que c'est un peu plus sympathique d'être en groupe et de brûler des calories, travailler un petit peu, tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur. On sent pas l'effort, mais on travaille quand même.
Le concept est inspiré de l'enseigne sportive hollandaise Fit for Free. Marine Antessier, cofondatrice de Neoness, nous parle des particularités du marché français.
Les Français sont un peu moins autonomes, ont un peu moins l'habitude et donc privilégient plus les cours, les activités avec un encadrement que dans d'autres pays où ils sont beaucoup plus autonomes. Après, dans les différences avec les Pays-Bas, on a aussi des différences de fréquentation dans la journée. Par exemple, nous, il y a pas mal de gens qui viennent pratiquer le midi, eux, c'est pas du tout une heure de pratique. Enfin voilà, il y a des différences quand même culturelles.
L'enseigne existe en France depuis 8 ans et compte aujourd'hui 20 salles. Si la cible principale reste les 20-40 ans, Neoness cherche à séduire les jeunes dès 16 ans et les seniors.
On a démocratisé vraiment l'ambiance dans les salles de sport, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens jusqu'à présent qui n'osaient pas aller dans les salles, parce qu'il y avait un petit côté culte du corps, etc. Ils ne se sentaient pas forcément à l'aise et nous on est vraiment dans une ambiance souple et décontractée. On n'a pas de miroir, on n'est pas dans le culte du corps, dans le show-off, etc. Et tout le monde vient pratiquer du sport dans la bonne humeur, bonne santé, voilà.
La campagne de parrainage du site de l'enseigne affiche un senior. Pour le directeur de la salle Thomas, le sport et l'âge avancé ne sont pas forcément incompatibles.
La Zumba, ça peut être accessible à des personnes âgées. Hein. C'est une danse légère, il y a des personnes âgées qui continuent à danser même en dehors d'une activité fitness, hein, bien sûr. Et ça va être les cours aussi de renforcement musculaire. Donc tous les cours cuisses abdos fessiers, donc on va travailler un peu les muscles du corps. Et ensuite, ça va être les cours de relaxation. Donc là, actuellement, en relaxation, on a du stretching. On a aussi le body balance. Donc ça va être un mélange de pilates, de yoga. C'est de la gym douce, en fait, où on sollicite un peu les muscles du corps et les étirements pour travailler principalement la posture.
Aujourd'hui, les 60 ans et plus ne représentent que 10% des adhérents du club. Le potentiel est donc énorme pour un marché qui brasse plus de 2 milliards d'euros par an.
À la réalisation d'Accent, il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans quelques instants, un peu de patience, les infos.